Se réveiller à Tokyo produit son effet. Il y a un tel contraste avec le Kansai. 4 matins d'affilée, j'avais repris conscience dans une odeur de tatami et un silence insolite. S'éveiller à Tokyo, c'est se sentir aussitôt traversé par une pulsation d'énergie rythmée, par un bruissement urbain ininterrompu. L'espace tokyoïte étant réduit, il n'y a aucun emplacement pour écrire dans cette chambre. Alors j'écris au lit. Ce n'est pas l'idéal, mais cela fonctionne. Couché en position de prélat romain, je compose ma partition blottie sous la couette. Le contraste entre ce que j'écris et les conditions dans lesquelles j'écris ne me déplaît pas, ne m'influence guère. Depuis tant d'années, j'ai dû apprendre à être une créatrice tout-terrain. J'ai écrit en avion, parfois même dans le bus. En l'occurrence, s'adapter à son environnement consiste à s'en abstraire. À 9h du matin, Alice et Pep viennent me chercher à la réception. « Où veux-tu aller ?» interroge Alice. « Je te laisse carte blanche, » dis-je pour dissimuler que je n'en ai aucune idée. C'est la bonne réponse. Alice a préparé un circuit. Cette femme qui réside donc à Tokyo depuis 2 ans a une connaissance profonde de cette ville, à croire qu'elle n'a pas cessé de l'explorer. Il s'agit pour elle d'initier Pep à l'univers tokyoïte et de replonger Amélie dans du supposé connu. Elle nous emmène à Harajuku, où le grouillement des jeunes excentriques n'a pas changé depuis ce que j'appelle « mon temps ».« Arrête de parler comme ça, » dit Pep. « On croirait un ancêtre. » Nous explorons le quartier jusqu'au plus reculé des friperies. Les panoplies de geisha, gothique ou de punk kawaii n'ont plus de secret pour nous. J'essaie de trouver rassurant de me rappeler si bien Harajuku. Ça ne l'est pas. En l'absence d'Alice, aurais-je eu l'initiative pourtant évidente de commencer l'exploration de Tokyo par Harajuku ? Rien n'est moins sûr. Et à supposer que j'ai eu cette idée, aurais-je été capable de m'y rendre en métro ? Non. Quand je tente de me réapproprier Tokyo, ma mémoire se heurte à une colossale indétermination spatiale. Des souvenirs qui ne sont pas situés, c'est de l'ordre de l'inquiétante étrangeté. « Nous sommes tout près du Meiji Jingu, » dit Alice. Amélie, tu as envie de le revoir ? Je n'y suis jamais allée. Alice me regarde avec une perplexité sans exemple. J'aggrave aussitôt mon cas. Je n'y ai jamais pensé. C'est clair, je suis comme une personne qui passerait 2 ans à Paris sans même penser à voir le Louvre ou les Tuileries. Pourtant non, ce n'est pas mon genre. Alors pourquoi cette omission ? Je l'ignore. Pep rit sous cap et dit à Alice que mes connaissances de Tokyo doivent être celles d'une enfant de 4 ans. Et là, c'est faux. Mon kansai était celui d'une enfant sonne et mes souvenirs étaient efficaces. À Tokyo, tabula rasa. Je découvre donc le Meiji Jingu en même temps que Pep et je tombe des nues. Comment ai-je pu vivre si longtemps dans cette ville en me privant d'une telle splendeur ? Le parc débute par un long encorbellement d'arbres grandioses, si drus que le ciel en est occulté, et les senteurs des cryptomères me montent à la tête. Le sanctuaire Meiji est vénérable à la façon japonaise, d'une classe absolue, rien d'écrasant. On peut s'adonner à son extase sans craindre de perdre la mesure. Impitoyable, Pep masticote. « On peut savoir pourquoi tu n'es jamais venu ici ? C'est pourtant un parc pour amoureux. Tu préférais peut-être les lieux clos. » Je n'ai rien à répondre, mais je soupçonne un raisonnement plausible. À l'époque, j'étais arrivée à Tokyo pour n'en plus repartir. Mon intention était d'y vivre. Je m'étais à ce point considérée comme une tokyoïte que j'avais dénié les visites. Les vrais Parisiens ne grimpent pas au sommet de la Tour Eiffel. La confusion ne m'empêche pas d'entrer de plein pied dans une telle magnificence. J'en tremble. J'ai les larmes aux yeux. « Ça y est, elle pleure, » s'agace Pep. « Je t'avais demandé d'éviter. » Tu t'offusques de ma nostalgie. Or, ce n'en est pas puisque ce lieu m'est inconnu. Je pleure d'admiration. Alice rit de nos échanges. Elle nous emmène déjeuner sur Omotesando. Je lui montre le café où j'allais chaque dimanche avec mon père. Nous avions nos circuits. J'apprécie qu'Alice les court-circuite. Tu te rappelles alors ? Demande Alice. Oui et non. Je me rappelle les émotions, les paroles, les odeurs. Entre chacune, il y a du vide. Mes souvenirs sont trop fragmentés pour constituer une géographie. Par exemple, je n'avais pas enregistré que Harajuku était proche d'Omote Sendo. Je ne connais pas de meilleure mnémotechnie que la voix de mon père. Il suffit qu'il ait prononcé un mot une unique fois en n'importe quelle langue pour qu'il soit gravé en moi à jamais. C'est un phénomène propre à la petite enfance qui, chez moi, s'est installé pour toujours. En 1989, quand il m'a fallu réapprendre le japonais, je me suis arrangée pour assister aux conférences ou aux événements qu'il organisait à Tokyo. Chaque discours qu'il prononçait en japonais enrichissait mon disque dur de 1000 vocables et de 1000 tournures. C'était valable aussi pour ses représentations de no ? Interroge Alice. Un peu moins. Le japonais médiéval, c'est plus difficile. Et puis, comme dans notre opéra, la complexité du chant a tendance à rendre les paroles inintelligibles. Pep me suggère d'imiter mon père chantant le no. Je m'exécute. Dans le restaurant, on me regarde avec perplexité. Il vaut mieux que j'arrête. À l'entrée de l'exposition consacrée au chat dans l'art nippon, dans un petit musée adjacent, un panneau avertit qu'il est interdit de parler durant la visite. Pourquoi ? Demande Pep.
C'est une règle dans la quasi-totalité des musées tokyoïtes, dit Alice. On estime que le silence est indispensable à la contemplation.
Cela permet d'éviter les lieux communs et balourdises auxquels on a droit dans les pinacothèques, dis-je. Le chat dans l'art japonais est l'équivalent de l'oiseau dans l'art maya ou du taureau dans l'art crétois. Les œuvres rassemblées sont ravissantes et drôles. Pep exulte et vient régulièrement chuchoter à mon oreille ses commentaires qui valent leur pesant de cacahuètes. Au bout d'une demi-heure, un gardien arrive et admoneste Pep à l'aide du panneau d'interdiction de parler qu'il a transporté. Son expression courroucée dit le reste.
« Quoi ? Je chuchote !» répond vertement Pep.
Elle a parlé à voix haute. L'agent frise la crise d'apoplexie et roule des yeux. Alice fait un geste pacificateur et indique à notre ami, d'un index sur les lèvres, qu'il importe de respecter la consigne. La suite de la visite se déroule dans une ambiance orageuse. Je connais Pep et devine la tempête sous son crâne. Comme prévu, au sortir du musée, elle explose.
« Je déteste leurs règles idiotes. Et toi, pourquoi ne m'as-tu pas défendu ? Pourquoi n'as-tu pas dit à ce type que je chuchotais et que je ne parlais pas ?»
Parce que cela n'aurait servi à rien. Les Japonais sont hyper formalistes. Pour eux, chuchoter, c'est parler. Le règlement, c'est le règlement.
L'intervention d'Amélie n'aurait fait qu'empirer la situation, confirme Alice.
Mais chuchoter, cela ne dérange personne,
dit encore Pep. Partager ses émotions au moment où on les vit, c'est indispensable.
Je suis d'accord, dit Alice.
Les Japonais voudraient qu'on attende d'avoir quitté les lieux pour échanger.
Ça perd de son charme.
Pep a tellement idéalisé ce peuple qu'il lui est très difficile d'accepter ses aspects négatifs. Presque tous les étrangers qui débarquent au pays du soleil levant passent par cette étape. J'en connais beaucoup qui ratent ce virage et tombent brusquement d'un extrême à l'autre. Après avoir idolâtré l'Empire, ils se mettent à le détester pour un motif subalterne. Je sais que Pep évitera cet écueil. Alice constitue un fabuleux contre-argument. Elle nous raconte son arrivée au Japon en pleine période du Covid. Les autorités ne s'étaient pas contentées de parquer les 3 immigrants en une quarantaine effroyablement sévère. Ils avaient exigé que le fils, alors âgé de 14 ans, soit mis à l'écart de ses parents. Il avait fallu que son mari s'insurge avec la dernière énergie pour éviter ce drame.
Après un pareil accueil, tu as quand même réussi à aimer ce pays ?
Demande Pep.
Oh oui, comment ne pas tomber amoureuse de toute cette beauté ? Et les gens en dehors de ces décideurs d'une raideur caricaturale sont tellement merveilleux. Je voudrais pouvoir te présenter mes amis d'ici. Ils sont d'une douceur, d'une amabilité, d'une classe.
C'est ta propre description que j'entends là, dis-je. Alice rougit.
Il n'est pas étonnant que tu te sentes chez toi ici, dis-je encore. Tu as toutes les qualités de ce peuple. Mes amis nippons me le disent aussi, avoue-t-elle. Je suis retournée en France pour Noël et j'ai eu beaucoup de mal avec mes compatriotes.
Ça va, tu me supportes ?
Demande Pep. Toi, oui, dit Alice en riant. Et les Belges, tu supportes ? Les Belges, c'est limite, intervient Pep. Alice nous a donné l'adresse d'un bar pour le soir, l'Arsène Lupin. Elle jure que ce n'est pas un bar français. Nous prenons congé, je lui ramènerai Pep en fin de soirée, à Nerima. Une enseigne à l'effigie d'un haut de forme avec monocle et fume-cigarette nous signale l'entrée du bouge en sous-sol. Nous découvrons un espace oblong, confiné, exagérément feutré. J'ai aussitôt la crainte que mon ami développe une allergie violente, n'osant pas imaginer la densité de la population d'acariens en un lieu pareil. Elle semble ne pas y songer car elle s'extasie. Trop classe, j'adore. Un maître de cérémonie déguisé en barman des années 50 nous place au comptoir et nous demande ce que nous désirons. Pep s'enquiert des cocktails, il lui détaille chacun, l'interrogeant sur ses goûts avec autant de déférence que s'il s'adressait à Al Capone. Au bout d'une réflexion commune d'une intensité impressionnante, ils se mettent d'accord sur une boisson au nom créatif que par commodité de langage j'appellerai le croisement de Shinjuku. Ensuite, il se tourne vers moi qui lui demande un whisky japonais nature. Il me sort une liste interminable. J'y coupe court. Servez-moi celui que vous préférez. Ma réponse ne lui va pas, mais il préfère ne pas insister. À l'évidence, il me considère comme le larbin de la personne éminente qui s'est montrée aussi pointue dans le choix de sa consommation. Nous le regardons préparer le croisement de Shinjuku. C'est un spectacle fascinant. Il dose des ingrédients mystérieux et recherchés. Le shaker est pour lui aussi sacré que l'encensoir pour le Thierry Ferrer. Sur son avant-bras, il conserve en permanence une serviette blanche, repassée et pliée, avec laquelle il essuie le bord du shaker quand il a fini de verser le breuvage dans le verre à cocktail approprié et qu'il jette ensuite dans un bac à linge sale. Il apporte ce nectar à Pep, le visage pénétré d'estime. Ensuite, il me sert nonchalamment un whisky. Nous trinquons. À Tokyo, mon ami goûte le croisement de Shinjuku et renverse la tête en arrière. Trop bon. Elle m'invite à en boire une gorgée. Moi qui ne suis pas très cocktail, je dois reconnaître qu'il est parfait. Enfin un cocktail qui n'a pas une saveur de bonbon acidulé.
Tu aurais dû m'imiter.
Je suis enchantée de mon whisky. J'en ai oublié le nom, mais pas à l'exquise brûlure subtilement tourbée. Tu fréquentais quel bar quand tu habitais Tokyo ?
Aucun. Tu avais 20 ans et tu n'allais pas dans les bars.
Je lui fais remarquer qu'autour de nous, personne n'a moins de 40 ans.
À 20 ans, à Madrid, j'allais au bar chaque jour, dit Pep.
Madrid, c'est différent. Ici, il y a du Duke Ellington et du Costard, sans parler des prix. Quel jeune viendrait en ces lieux ?
Tu faisais quoi le soir à Tokyo avec ton jeune fiancé ?
On se promenait au Shirogane Koen. On mangeait des okonomiyaki debout dans la rue. Et puis il me conduisait au port. On regardait les grues.
Les oiseaux ?
Non, les grues portuaires de marque Komatsu. C'est beau la nuit. Mon ami rit, finit son verre. À Paris, dans ces cas-là, elle réclame « la petite sœur ». Ici, elle appelle le barman pour une nouvelle consultation, au terme de laquelle elle choisit un cocktail différent. Je reprends une rasade du whisky identique. Nous parlons d'Alice. Pep est très heureuse chez elle.
J'aime partager sa vie de famille.
Ils sont calmes et équilibrés, tous les trois.
J'admire leur harmonie. Je n'ai jamais connu ça.
Alice a beaucoup d'une japonaise.
J'adore. J'aime ce peuple. Je voudrais lui ressembler.
Je souris. Les probabilités que Pep adopte la sérénité japonaise me paraissent faibles. Il en va de même pour moi. Je le sais. J'ai essayé.
Il n'empêche, je suis sûre qu'à 20 ans, tu étais un bonnet de nuit. Ton fiancé nippon a dû sacrément s'ennuyer avec toi.
Il ne s'est pas plaint.
Quelle excellente éducation.
Nous terminons nos verres et allons dîner d'un soba dans un endroit sans prétention. Manger en état de légère ivresse est un plaisir exempt de toute mauvaise surprise. Je reconduis mon ami en métro jusqu'à sa lointaine banlieue et puis je rentre à l'hôtel. Dégrisé, je lis dans « À rebours » le passage où des esceintes incrustent de pierres précieuses la carapace de sa tortue. Relire permet entre autres d'expérimenter l'évolution de sa sensibilité. Je suis devenue beaucoup plus impressionnable qu'à 18 ans. La mort de la tortue me supplicie. Il s'en faut de peu que je laisse glisser une larme.